On va vous apprendre des choses, vous en faire comprendre. On va vous divertir, vous accompagner. On va vous faire rire, vous faire fâcher. Le FM 93, c'est de l'audace, c'est du mordant, c'est du professionnalisme. Le FM 93, c'est tout ça et plus encore. FM 93.
Ça me parle.
FM 93. Ségal, le midi, avec Myriam Ségal et Jeff Blanchette. FM 93.
Ici Myriam Ségal. On pensait que le pont de Québec était magané. Surprise, le pont Pierre-Laporte est pas beaucoup mieux, selon un rapport du ministère. À Sainte-Marie, l'usine Vachon ferme pour cause d'inondation. On va-tu manquer de Jojo, Louis, sérieusement? Et Montréal veut interdire les plastiques uniques. Les remplacer par quoi?
Myriam Ségal. Jeff Blanchette. Ségal, le midi.
FM 93.
Jeff, grosse nouvelle sportive dans la région de Québec.
Laquelle?
On va louer des habits d'homme grenouille, mais il y a un golf qui roule.
Déjà aujourd'hui?
Oui, à midi aujourd'hui, le terrain de golf, l'Albatros. C'est à l'ancienne Lorette, là.
Donc, les premiers crinqués vont aller frapper des balles aujourd'hui midi.
Jamais je croirais. Regarde. Note que. En tout cas, j'espère qu'ils ont des habits d'homme grenouille en location.
C'est sûr qu'ils en ont déjà. C'est sûr qu'il va y avoir des gens ce midi. Les plus motivés, les passionnés, hein? Ils sont là dès la première minute que c'est disponible. Les champs de frappe étaient déjà ouverts, si je ne me trompe pas. Il y en avait. Mais là, pour faire ton 9 trous, ton 18 trous, ce serait les premiers à...
9 trous, c'est 9 qui rouvrent. 9.
Il commence par 9, exagérer, là. On n'ambitionne pas.
Non, parce que j'imagine que le reste du terrain, c'est le lac.
C'est ça.
Non, j'exagère. Mais il faut croire qu'ils ont un bon drainage à cet endroit-là.
Imagine la qualité des verres en début de saison comme ça. C'est sûr que t'es pas trop pointilleux.
Il y a tellement des techniques avec des produits particuliers pour entretenir les verres que j'imagine.
Il n'y a pas de canon à gazon, comme les canons à neige l'hiver. On peut pas faire l'inverse.
Ben, il y a des canons à gazon, ça s'appelle de l'eau, puis tu tires ça sur ta neige, puis à fond. Mais ça, c'est très, très mauvais pour l'environnement, paraît-il.
Ils l'ont peut-être fait au golf. Je sais pas comment ils s'organisent pour vrai, mais il y a des gens autour de moi qui ont hâte de commencer, puis sont allés dans les golfs virtuels en fin de semaine.
Ouais.
Tu tapes dans un écran, là, puis là, il y a des senseurs qui calculent. Ça a l'air bien. Je devrais commencer par ça. J'ai joué au golf une fois à Saint-Gilles, puis c'était pas très concluant, mon expérience.
Moi, j'ai joué une fois avec des gars qui étaient plus pressés d'arriver au 19e trou que de jouer.
Ah, le breuvage, t'en venais?
Je n'ai jamais pu toucher à une balle. Je pense que j'ai même pas sorti un bâton de golf.
Mais t'étais là pour quoi, comme cheerleader?
Ouais, j'ai trouvé ça emmerdant à mort. Puis le résultat, c'est que j'ai plus jamais touché au golf de ma vie.
Son nom est plate. Ouais. Joue 4 balles, meilleure balle dans ce temps-là. Puis Madame Ségal, elle fera Scapura.
Non, mais regarde, il n'y avait pas le temps. Il n'y avait pas le temps de me laisser jouer. Ça fait que j'ai trouvé ça très colomb. Mais c'était il y a longtemps, là. Et j'ai jamais réessayé. Si c'est ça, les golfeurs, non, merci, très peu pour moi.
Quand j'étais plus jeune, on allait au terrain de soccer à Sainte-Croix, en arrière, puis il y avait un boisé au fond du terrain. Donc, on s'installait avec nos bois 1, nos bois 2, puis on tapait des balles. Dans le bois. On espérait pas pogner de chevreuil puis d'orignal, mais on allait frapper là, puis à un moment donné, on allait faire une corvée dans le bois pour récupérer nos balles. Mais c'est pas mal la seule expérience de golf que j'ai avec ma partie unique à Saint-Gilles.
C'est sûr que à Sainte-Croix, t'as plus de chances de frapper un orignal qu'autre chose.
Un peu de respect pour ma communauté, Myriam.
L'été, t'as des chances de frapper des mouches aussi.
Arrête, pas super.
OK, donc, ouverture du golf. On s'accroche à tous les espoirs qui se présentent à nous ces temps-ci. On a vraiment un printemps pourri. Puis les gens de Sainte-Marie, là, écoute, l'usine Vachon, qui a jamais été inondée sérieusement.
Mm-hmm.
Enfin, il y avait des inondations, mais tout à fait contrôlables. Puis, tu sais, bon.
Les pompes étaient suffisaient à contrôler la situation habituellement.
Ouais,
pas cette année.
Là, cette année, l'usine des gâteaux Vachon est fermée à Sainte-Marie-de-Beauce. 700 chômeurs qui vont peut-être pouvoir être bénévoles pour aller aider les autres à ramasser les dégâts des inondations. Mais 700 chômeurs plus une municipalité sinistrée, je suis pas sûr que Sainte-Marie avait besoin de ça.
Mm-hmm. Imagine les citoyens qui travaillent à l'usine, qui ont peut-être déjà les deux pieds dans la flotte
puis à la maison. Puis là, se retrouvent pas de revenus ou avec une coupure de revenus pour quelques semaines.
Ils se font dire de prendre leurs vacances pendant ces semaines-là. Mais cet été, s'ils veulent profiter de leur petit voyage dans le Maine, il va falloir qu'ils prennent un sans-solde. Ça, c'est si la compagnie leur accorde. C'est pas une situation évidente, mais vraiment pas.
Non. C'est épouvantable. C'est comme une catastrophe qui s'ajoute à une catastrophe. Non?
Mm-hmm.
Quand tu perds à la fois ton revenu et ta maison, mais que les paiements continuent à arriver, parce que les maisons là, qui sont hypothéquées, les paiements continuent à arriver, eux autres. Ton char qui est sous l'eau, là, les paiements continuent à arriver.
Ça, les prêteurs ne te donnent pas de pause à cause de ça.
Non. Et là, si en plus ton revenu s'effondre, le problème, c'est que c'est une usine d'alimentation et les normes de salubrité sont très élevées dans les usines d'alimentation. Donc, on ne sait pas combien ça va prendre de temps pour remettre ça aux normes de salubrité.
On s'est fait dire que l'eau rentrait par les docks de livraison. Ça a monté à ce point-là. Puis c'est un peu pourquoi les pompes n'ont pas réussi à fournir. C'est que le niveau de l'eau a tellement monté que c'était du jamais vu pour l'usine Vachon.
Ouais. Et ce qui inquiète le syndicat, c'est que l'employeur ne donne aucune garantie de réouverture.
Non.
L'employeur étant maintenant Bimbo Canada.
C'est pas sur Grande Allée, ça, les Bimbo?
Non, Bimbo, c'est pas ceux-là.
Okay.
Pas ceux-là.
C'est les Mexicains, c'est Bimbo Mexicain. Okay, parfait.
C'est ça, qui sont quelque part loin, et dont c'est apparemment pas la priorité actuellement. C'est aussi le prix de la délocalisation, des ventes des intérêts québécois à des étrangers. Quand il arrive une catastrophe, tu n'es même pas capable d'avoir l'information.
Ouais. Moi, ce qui m'a surpris de l'article de Radio-Canada là-dessus, c'est qu'il y a des employés qui se sont fait dire par des policiers de Sainte-Marie « Ah, de toute façon, il allait fermer. » Il y a des rumeurs qui courent dans la ville que ça pourrait fermer. Puis c'est colporté en pleine période d'inondation. Fait que là, tu te mets à imaginer le pire. Là, déjà que t'es à bout, tu dors plus, il a fallu que tu vides ta maison, il faut que tu te relocalises temporairement, tu te demandes si l'indemnisation du gouvernement va rentrer plus vite, comme ça a été annoncé par Mme Guilbeault. Puis là, tu rentres pour travailler, puis il y a un policier qui te dit « Ouais, anyway, vous aviez fermé. » Hein?
Ouais, c'est ça. La crainte, c'est ça. C'est que ce soit l'occasion qu'attendait la compagnie. Puis en attendant, je faisais un gag sur les Joe Louis, mais la situation est bien plus dramatique que de manquer de Joe Louis à l'épicerie.
Ben oui.
Bon. Dans les années 70-80, je travaillais à la défunte Gagnonville, nous écrit quelqu'un, et il y avait des canons à gazon. Voyons donc.
C'est des canons à semis dans ce temps-là?
Hein?
Ça doit être ça.
Les pelouses sur les bords d'autoroute sont des semences vaporisées et ça pousse tout seul ensuite. Moins de travail que la tourbe s'est lancée par un camion citerne. Je me suis toujours demandé si on n'utilisait pas beaucoup de pesticides aussi. À Sainte-Marie, avec l'usine Vachon, raison de plus d'accepter un chèque du gouvernement et de décrire cette là, nous écrit Michel. C'est sûr que si, en plus, un des gros employeurs de Sainte-Marie ferme, ça va précipiter une crise économique dans ce village-là, non? Ou dans cette petite ville-là.
Il y a 700 personnes qui travaillent là. Ça doit être des bonnes jobs quand même. Là. Ils ont besoin de manœuvres, oui, mais il y a des gens qui sont là pour faire tourner l'usine. Mm. Tu coupes ça à Sainte-Marie?
La prospérité que la ville de Québec connaît, c'est loin d'être le modèle à la grandeur du Québec. Il y a bien des endroits où, oui, il y a des pénuries de main-d'œuvre, mais c'est pas parce qu'on est en prospérité. C'est pas parce que les choses vont bien. C'est les régions se vident, les villages, les petites villes se vident. Ça peut peut-être réjouir les urbains qui s'imaginent qu'on va tout pouvoir être en char électrique, puis qui disent que le reste du Québec n'a pas d'importance là. Mais en réalité, c'est tout ton territoire que tu dégarnis quand tu fermes une usine dans une ville comme celle-là.
Oui. Faut que tu l'occupes ton territoire.
Mmh. Oui, mais il faut que tu l'occupes intelligemment. Puis là, visiblement. Le long de la Chaudière, là. Hey, ça fait depuis 1917 qu'on parle de faire un bassin de rétention pour éviter que l'eau envahisse les villes qui sont riveraines de la Chaudière. Les bassins de rétention, faudrait les faire à plusieurs endroits le long des affluents de la Chaudière. Puis ça, c'est des investissements qu'on n'a jamais chiffrés sérieusement. Le dernier qui a recommandé ça, c'est une compagnie en 95. Ça fait 20 ans. Puis ça a été recommandé en 95, en 58, en 65, en 58, puis en 1917.
Mm-hmm.
Ouh!
Là, c'est le temps de brasser les cartes. Là. Quand tu parlais hier avec Mme Guilbeault, puis tu lançais l'hypothèse de 3 000 maisons à 200 000, ça fait 600 millions qu'on pourrait donner en indemnisation finale. On aurait plus besoin de les indemniser par la suite. Mais si on a vraiment 600 millions à injecter dans cette problématique-là, y a-t-il moyen de se demander si les bassins de rétention, c'est pas une option qui serait plus abordable? Je peux pas croire qu'ils n'ont pas les chiffres au gouvernement, qu'ils n'ont pas des hypothèses.
Je pense pas que ce soit plus abordable. Parce que mon souvenir, c'est que quand on a parlé d'un bassin de rétention pour prévenir le prochain déluge au Saguenay, là, il était question de 200 millions de dollars sur une rivière dans le parc des Laurentides.
Okay.
Fait que j'ai comme l'impression que des bassins de rétention... Puis, tu sais, le problème, c'est toujours le même, là. On draine. Par exemple, tu fais un terrain de golf. C'est vert, un terrain de golf. C'est superbe.
Fantastique.
C'est hyper drainé. Donc, tout ce qu'il y a de ruissellement, tu l'accélères avec un terrain de golf. Même si c'est super vert. Mm-hmm. Tu défriches une terre pour faire, on va dire n'importe quoi, des patates. Forcément, tu vas drainer ta terre. Puis tout le ruissellement va s'accélérer vers la rivière. Ça fait que même quand tu ne poses pas de gestes pour augmenter les terres inondables de façon sensible, que tu as l'air d'être vert, c'est un champ. Quoi de plus vert qu'un champ? Quoi de plus vert qu'un golf? La réalité, c'est que si tu fais du drainage, tu viens d'accélérer la hausse des zones inondables. Puis là, on parle même pas des changements climatiques. Moi, je serais très curieuse que quelqu'un étudie sérieusement les phénomènes de drainage et de construction qui privent d'une capacité d'absorption le sol, comparé à l'effet des changements climatiques.
Ouais.
Je suis pas sûr que le principal problème, c'est pas ça.
C'est parce que les changements climatiques, actuellement, on s'en sert un peu comme raccourci pour dire qu'il faut faire quelque chose, mais c'est pas ça qui est à l'origine des problèmes d'inondation. La question des changements climatiques pour les inondations, c'est de savoir est-ce que les inondations vont être plus fréquentes et plus intenses. Mais c'est sûr que la base de tout ça, c'est le développement des villes, c'est l'urbanisme, puis c'est de savoir qu'est-ce qu'on a fait avec les terres autour. Les changements climatiques, c'est un élément parmi ceux qu'on doit étudier pour faire des hypothèses, remettre à jour nos cartes de zones inondables et compagnie. Va falloir qu'on s'assoie puis qu'on regarde ça de façon sérieuse. Faut le mettre dans le blender, cette caractéristique-là, mais c'est pas la panacée, c'est pas ce qui explique tout.
Et il y a quelqu'un qui nous dit les bassins de rétention peuvent aussi déborder. Oui, s'ils sont mal gérés, ils peuvent déborder. Puis c'est ce qui arrive actuellement. Là. Il y a les barrages Carillon, Sartigan, etc. là, qui retenaient l'eau. Puis là, ils peuvent plus retenir l'eau parce qu'ils ont peur que le barrage lâche. Mm-hmm. Ça fait que là, ils ouvrent. Mais s'ils ouvrent, ou bien tu inondes en amont, ou bien tu inondes en aval.
Oui.
Mais tu dois choisir qui tu vas inonder à toute fin pratique. Il y a aussi toute la manière de construire nos maisons qui est quelque chose, là. Et tu vois, le dynamitage des embâcles, peut-être aussi qu'on devrait s'y intéresser de façon un peu plus active.
Oui.
Ça se fait à certains endroits. Il y a des endroits où les municipalités envoyaient des pépines dans les rivières pour creuser la rivière à l'automne pour que les glaces passent plus facilement puis que l'eau passe plus facilement au printemps. Mais là, il y a des lologues dans les ministères de l'Environnement qui ont dit « Ah, c'est pas bon pour les poissons. Il y a trois sortes de menées qui vont mourir. »
Exact. On va délocaliser des milliers de familles pour sauver les familles de menées.
Parlons de choses, de drames beaucoup plus légers, si tu veux. Les pouleurs.
Hey, là, c'est assez. Je le disais hier, j'étais 1-7 hier dans mes prédictions de première ronde. Puis, je blaguais avec toi, je disais, en sortant à 14h, je vais aller me chercher un mise au jeu, puis je vais mettre mon argent sur les Hurricanes. J'aurais donc dû. Je l'ai pas fait.
Les Hurricanes, en deuxième période de prolongation hier, ont éliminé Washington, qui sont les détenteurs de la Coupe Stanley.
Oui, je me suis couché après la première période de prolongation, parce qu'à un moment donné, il faut fermer les yeux, mais quand j'ai vu Alex Ovechkin dans son bureau avec un genou à terre faire son lancer sur réception sur Mrazek, je me suis dit « OK, c'est réglé ». Finalement, Mrazek l'a arrêté, son masque est tombé, on a repris le jeu. Fin de la première période de prolongation. Bon, mais je regarderai le score demain matin. Mais Christy, les Canes ont gagné.
Ils ont gagné. Ce qui fait que presque tous les favoris ont été éliminés. Là, actuellement, si je regarde le pool de Dan Poo, là, il n'y a plus personne qui a la grille parfaite.
Non.
Donc, ça va se départager, mais Dan Poo vous précisera ça dans son émission. Là, ça va se départager avec ceux qui ont choisi la bonne équipe pour gagner la Coupe Stanley.
Exact.
OK. Mais là, la favorite parmi ceux qui restent en lice, 8% avaient choisi Boston. Donc, il y a 136 personnes qui avaient choisi Boston.
C'est un bon choix. Les Blue Jackets ont été sélectionnés par combien de personnes? Par quel pourcentage des poolers?
Saint-Louis, 3,8%.
OK.
OK? San José, 3,3%. Columbus, 22 personnes.
22 personnes sur 1700?
Sur 1700 avaient choisi Columbus, ça fait 1,3%. Highlanders, 0,6%. Il y en a 10. Dallas, 0,3%. Colorado, 0,3%. Ça en fait 5. Et les Hurricanes de la, Caroline, 4 personnes les avaient choisies.
Ça veut dire que les 3 dernières équipes que tu as nommées, les 5 personnes qui ont choisi cette équipe-là ont automatiquement 1 000$ au bout. Parce qu'on a 5 fois 1 000$ à donner, si je comprends bien.
Donc, alors, je ne connais pas le détail. Ouais. Mais ce que je peux te dire, là, c'est qu'il y a encore 17,8% des participants au pool de Danpou qui ont encore un cheval dans la course.
Je suis allé voir, chaque année, EA Sports, qui a la franchise NHL, fait ses prédictions, puis nous dit quelles vont être les équipes qui vont s'affronter en finale de la Coupe Stanley. Cette année, selon EA, les finalistes étaient des Blues de Saint-Louis. C'est encore possible. Les champions, c'était le Lightning de Tampa Bay. Ils ont perdu en 4. Ils se sont trompés. Puis du côté d'ESPN, habituellement, on a toujours les prédictions de chacun des analystes. Ouais. ESPN, ils ont dit, OK, on va tous s'entendre, on va faire des compromis, on va s'obstiner autour d'une bière, puis on va vous donner le résultat de nos prédictions à telle journée. Ils sont 0-8 pour la première ronde. Les grands bons, les spécialistes d'ESPN sont 0-8. C'est pour dire à quel point il y a des surprises dans ces séries-là. Depuis l'expansion en 67, c'est la première fois qu'il n'y a aucun champion de division qui sera en deuxième ronde.
Alors, c'est les sceptiques sont confondus.
On a du hockey ce soir. Boston contre Columbus, c'est la série que je vais regarder avec attention. Ça va jouer du gros hockey, là. Il n'y a aucun doute. Dallas contre Saint-Louis également ce soir. Et demain, on débute la deuxième ronde avec Caroline contre les Islanders et Colorado contre San Jose. Donc, on n'a pas de pause. On peut continuer à regarder du hockey. Ça commence ce soir à 19h pour Boston et Columbus.
Il y a une histoire de fraudeur qui vaut la peine d'être racontée. Écoute, des gens qui se disent, il y a des gens qui aimeraient ça se faire payer des soins de santé par la Société d'assurance auto du Québec, puis avoir une nouvelle auto, mais ils n'osent pas faire un accident de peur de se faire mal. Ça fait que ils se sont mis à recruter des automobilistes qui avaient besoin de soins de santé, soit physiothérapie, etc., puis qui n'avaient pas d'assurance pour les payer.
Ouais.
Et des automobilistes qui sont prêts à scraper leur auto pour avoir l'argent de l'assurance. Là, les fraudeurs te demandent entre 200 et 2500 $ dépendant de l'ampleur du carnage qu'ils doivent faire.
C'est ça.
Ils jumellent deux automobilistes qui ont les mêmes intérêts, c'est-à-dire scraper leur char pour toucher l'argent de l'assurance.
Ça prend deux croches. Il y a des croches qui recrutent d'autres croches.
Les fraudeurs se mettent un équipement de sécurité, un casse à la tête, etc. Ils prennent les deux chars, puis paf! Ils enfoncent l'un dans l'autre.
Derby de démolition.
Dans un quartier résidentiel tranquille, de manière à déployer les coussins gonflables, mais pas trop pour pas se blesser. Après ça, si jamais la voiture est pas assez scrap, on la finit au bat de baseball dans un hangar discret.
Ça doit être le fun, par contre. Comme défoulement, là, tu pognes une masse, tu tapes dans un char. Ça, c'est la belle partie de la job. Ils ont failli se blesser avant, mais là, ils peuvent finir ça à mitaine.
Puis ensuite, ils s'en vont, avec la complicité d'un remorqueur, ils s'en vont déposer la voiture accidentée dans un fossé. Ils rappellent le propriétaire de la voiture, ils lui disent « Garde, ton char est là, appelle la police. » Fait que là, le gars se rend près de son char accidenté. Heureusement, il n'a rien, en apparence, quoi qu'il ait un peu mal dans le dos.
OK.
OK? Puis la police vient à sa rescousse. On enregistre l'accident. Il réclame à son assurance. Il y a un char neuf. Excusez, j'ai échappé quelque chose.
Tu voulais briser ta gourde pour la réclamer à la SAC? Ou...
Il y a un char neuf. Et en plus, pour ses petits maux de dos, la SAQ va le rembourser pour aller voir un physiothérapeute. La gang qui faisait ça, ils étaient 4 apparemment, dont un remorqueur, parce qu'il faut bien amener les chars quelque part. Ils se sont fait pogner par la police finalement. Il y a quelqu'un quelque part qui a trouvé ça un peu suspect. On raconte pas dans l'histoire comment la police a remonté le fil de la chose. Mais admet qu'il faut être... faut vraiment vouloir.
C'est ingénieux, mais c'est croche puissance 1000. Imagine l'automobiliste qui a embauché ces gars-là. Quand la police vient le voir à côté du char dans le fossé, là, qu'est-ce qui s'est passé, monsieur? ben là, j'ai perdu le contrôle, puis je me suis endormi. Pis... Hein? Moi, je serais bien trop nerveux.
D'après moi, ce sont des assurances qui ont commencé à avoir des doutes en regardant les dégâts et en se disant que c'est à peu près impossible que l'accident ait eu lieu là où il
était déclaré. C'est ça, de cette façon-là. Les évaluateurs sont forts là-dedans. Ils peuvent voir qu'est-ce qui est brisé sur l'auto puis savoir à peu près ce qui s'est passé. Quand l'accident concorde pas avec les dommages, ils devaient lever le drapeau tout de suite.
Mais faut-tu avoir l'esprit mal tourné? Puis pour inventer une fraude de cette ampleur-là. Faut-tu avoir l'esprit mal tourné?
Puis ils ont réussi à recruter des gens. Là. C'était suffisamment lucratif pour que ce soit une de leurs principales activités. Former des couples comme ça, puis on s'occupe de ton char, chef.
Ça fait 4 fraudeurs de moins sur le territoire. Et peut-être quelques automobilistes complices qui vont se faire pogner eux autres aussi. Parce qu'eux autres, là, leur compagnie d'assurance va les poursuivre.
Aucun doute.
Bon. La SAAQ va vous demander de récupérer l'argent de la physio qui a été payée.
Oui.
Fait que ces gens-là, là, sont dans le trouble encore plus que les fraudeurs. Les fraudeurs, eux autres, ils vont se présenter devant un tribunal. On va dire que c'était un crime sans violence. On va dire qu'ils avaient un dossier criminel vierge, probablement, ou quelque chose du genre. Puis on va dire, bon, regarde, 1 an de prison, 2 ans avec sursis chez vous, 2 ans moins un jour. Tandis que ceux qui ont fraudé l'assurance auto, qui ont fait affaire avec ces fraudeurs-là, là, ceux-là, là, ils en ont pour des années avant de s'en sortir.
C'est clair, ils vont avoir la SAC et les assureurs d'inculottes pour les prochaines années.
11h21, petite pause.